Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité.
Et tous les soirs, pas de foot, pas de cube et toute la vérité sur les plus grands mystères de notre vie, de l'univers. Et nous en parlons avec Serge Nazar. Dans quelques instants, nous reviendrons sur la Confédération intergalactique. Mais je vous rappelle que tout à l'heure, du côté de 23h, nous parlerons des miracles avec Pascal...
Patrick,
c'est ce que je voulais savoir si tu suivais, tu vois. Balquiero, je vous dirai donc toute la vérité sur ces miracles.
L'univers mesure 46 milliards d'années-lumière. Croyez-vous vraiment que nous soyons seuls ? Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado.
Visiblement, ce soir, vous apprenez, si vous n'êtes pas des habitués de la maison, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. La Confédération intergalactique est là, et pour nous en parler, Serge Nazar. La question que je vous ai posée juste avant la musique, Serge, c'était pourquoi s'intéressent-ils à ces êtres de la Confédération intergalactique à nous, humains ?
Alors d'abord, ce sont des êtres humains qui sont passés eux aussi par des stades d'évolution planétaire et dans leur règle de base, je l'ai précisé tout à l'heure, ils aident les civilisations qui ont besoin, qui sont en difficulté d'évolution, ils aident les autres êtres humains à se développer. Alors il faut quand même savoir que depuis de nombreuses qu'on appelle civilisations de base, des grandes civilisations comme la Lémurie ou l'Atlantide, les vibrations planétaires n'étaient pas aussi lourdes qu'actuellement, et des êtres comme les Vénusiens ou les Martiens, qui venaient des plans subtils, atterrissaient et étaient en contact avec les populations. C'était assez courant. Dans notre histoire, ceux qui ont fait des recherches se sont bien rendus compte que la présence des êtres de l'espace, confédération intergalactique ou pas, ont toujours atterri et ont été en contact de différentes manières avec bien des gens. Bon, donc, depuis toujours, la Terre, qui était une planète en pleine évolution, avait besoin d'aide et ça faisait partie de leurs possibilités. Mais ce qu'il faut rajouter, c'est qu'actuellement, nous sommes à la fin d'une grande phase d'évolution et nous allons passer dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau, qui représente, et là je résume parce qu'on pourrait en parler très longtemps, qui représente pour la première fois sur la planète Terre un saut d'évolution spirituelle qui fait que tout ce que nous vivons actuellement est en train de ressortir pour s'évacuer et d'autres notions beaucoup plus équilibrées vont pouvoir s'établir. Donc leur rôle est de donner des impulsions particulières au moment de ce grand changement de phase de civilisation, d'évolution.
Oui, mais quand va-t-il arriver ce changement ? Parce que c'est la question, beaucoup de gens nous parlent de ce grand changement. Quand allons-nous le vivre ?
Alors, je vais peut-être en fâcher certains, mais moi, je dis ce que je sens, ce que je sais. Lorsque, il y a quelques années, on parlait du 21 décembre 2012, j'ai bien expliqué autour de moi et lors de mes conférences que rien de tangible allait se passer. Bon, il ne s'est rien passé de tangible. Je dirais que l'ère du Verseau, dans la façon planétaire de gestion des hommes et de leur civilisation, lorsqu'elle sera bien équilibrée, moi, je parle de siècles.
Ah oui.
Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque individu qui s'éveille, qui se remet en question, qui tout à coup ouvre les yeux au niveau de sa conscience, fait son saut d'évolution et automatiquement est en contact avec des entités spirituelles, qu'elles soient de la Confédération intergalactique ou de l'Organisation planétaire humaine ou d'autres, je dirais que chaque jour des consciences émergent, sortent de ce magma impensable que nous vivons sur ce plan matériel. Donc ce n'est pas, je dirais, c'est un détail de savoir lorsque cette humanité globalement pourra vivre différemment, mais ce qui est intéressant, c'est que tous les jours, des êtres font leur saut d'évolution. Et imaginez-vous que lorsque des êtres ouvrent leur conscience à travers donc leur cheminement vers le cosmos, immédiatement, ils sont pris en charge individuellement. Ils sont aidés d'une manière plus particulière. Et il y a des êtres là je risque d'en surprendre certains, mais c'est comme ça, qui pendant leur sommeil rencontrent des êtres de la Confédération, peuvent même se déplacer dans différents endroits pour être enseignés. Et moi, j'ai rencontré quand même beaucoup de gens qui n'avaient pas lu, qui n'avaient pas eu de contact et qui m'expliquaient ce qu'ils avaient ressenti et ce qu'ils savaient. Mmh. Et ça correspondait parfaitement avec les lois de la Confédération. Ouais. Ils n'avaient eu besoin de rien ni de personne. C'est leur conscience qui s'ouvrait. Mmh. Et à partir de là, elle était alimentée d'énergie lumière avec tout ce que cela comporte.
Mais dites-moi, Serge, vous me disiez que finalement ces êtres de la Confédération intergalactique sont des humains finalement qui ont justement évolué. Mais comment ont-ils fait et quand est-ce que ça s'est passé?
Cher Bob, ça s'est passé, je dirais, en dehors du temps.
Ah.
Au fil de l'évolution des êtres humains, il y a ceux qui évoluaient. Il n'est pas nécessaire pour évoluer, ouvrir sa conscience, de passer par des systèmes tels que nous connaissons sur la planète. Heureusement, c'est relativement rare dans le cosmos que des civilisations en arrivent à de telles circonstances. Donc, de tout temps, on peut dire que des êtres ont évolué, sont passés et ont fait des incursions dans la matière pour apprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, dans l'incarnation, on apprend beaucoup de choses qui seraient intéressantes de développer, mais ben, sûrement pas ce soir, on va renforcer ces états de conscience, on va mettre en application ce qu'on a appris, même sur des plans subtils, on va concrétiser, on va apprendre à gérer cette matière. Donc, ces êtres-là l'ont fait, pas forcément à travers des vicissitudes, jusqu'au moment où, comme je dis tout à l'heure, à travers leur libre arbitre, ils décidaient d'intégrer cette confédération qui a un but bien particulier.
Est-ce que ça va être pareil pour les peuples des siècles à venir, puisque vous m'avez dit qu'on va évoluer, mais que ça va être sur des siècles. Est-ce qu'on va pouvoir refuser ou être obligé?
Je ne comprends pas.
Est-ce que tout le monde va évoluer, parce que, ou est-ce que certains vont refuser de passer sur un autre plan vibratoire, par exemple?
Bon, disons que l'univers est en expansion de conscience. L'univers est d'abord conscience avant d'être physique et avant d'être matériel.
Ouais.
Donc l'évolution est une constante universelle. Les êtres évoluent. Alors c'est vrai que parfois il y a des phases d'involution, comme sur la Terre, où les êtres se sont refermés complètement, ont oublié d'où ils venaient, ce qu'ils étaient, etc. Mais un jour ou l'autre, ils vont remanifester les vibrations universelles dont ils sont issus. Alors, il est évident que tout le monde, dans la progression qui se fait actuellement, tout le monde ne pourra pas suivre le principe d'une évolution qui s'accélère de plus en plus. Il est prévu que ces êtres-là iront s'incarner sur une planète qui est préparé, qui les recevra. Bon, là, je ne peux pas rentrer dans les conditions de ce qui est préparé pour ces êtres-là.
Est-ce que vous avez, Serge, une mission? Vous qui avez été contacté par cette confédération, est-ce que vous avez été contacté pour la divulgation, pour que le monde prenne conscience de cette confédération, pour faire passer des messages?
Alors d'abord, je n'aime pas trop le mot mission parce que on y accorde trop de choses. Je dirais que j'avais une action à mener. Cette action, c'est moi qui l'ai choisie avant de m'incarner, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Ce qui se passe entre la Confédération et moi, c'est une affaire d'amour. Et ces êtres-là ont une telle puissance d'amour, ont un tel comportement, que pour moi ce sont des guides. Et c'est pour cela que je travaille avec eux lorsque je le peux, entre des incarnations ou en incarnation. J'ai voulu, dans cette incarnation qui pour moi est particulière, vouloir aider mes frères et mes amis de la Terre à se développer. Donc j'ai proposé de leur donner des renseignements, comme nous le faisons ce soir, pour qu'ils y réfléchissent et qu'ils mettent en application éventuellement, qu'ils acceptent ou qu'ils refusent, ça s'appelle le libre arbitre. Moi, ça ne me concerne pas. Donc, ce que je fais et ce que j'ai fait pendant ces quelques dizaines d'années, c'est quelque chose qui m'incombe.
C'est propre à vous, quoi.
Comment ?
C'est propre à vous.
Heureusement, je ne suis pas le seul. Il y en a des milliers sur la Terre. Mais en ce qui me concerne, c'est un choix. Et ce qui a correspondu à une organisation, d'où les messages qu'on a reçus, d'où les différentes initiations sur tel ou tel plan, des dialogues qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses dont les humains se posent des questions. Bon, j'ai les réponses. Ça me plaît et je peux en parler à d'autres, d'accord, tout simplement.
Serge Nazar, sur Ado, ce soir, dans Bob vous dit toute la vérité, pour la Confédération Galactique, les gouvernements d'aujourd'hui sont-ils au courant? Connaissent-ils l'existence de cette Confédération intergalactique? La réponse dans un instant.
Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. Après, plus rien ne sera jamais pareil.
Bienvenue, si vous arrivez pour la première fois, on vous a parlé de moi, vous avez décidé de venir me rendre visite. Mon nom est Bob et tous les soirs, entre 21h et minuit, je vous dis toute la vérité. Toutefois, j'aimerais vous mettre en garde. Il se dit ici ce qui n'a jamais été dit ailleurs. C'est une émission à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Et si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez mille fois. Et je voudrais vous signaler que le 8 avril prochain, Jacques Grimaud et Patrice Pouillard, respectivement auteurs et réalisateurs du film La Révélation des Pyramides, reviendront ici pour une émission spéciale durant laquelle vous pourrez, sur l'antenne, en direct, leur poser toutes vos questions.
Tous les soirs sur Ado, tout ce que l'on nous cache depuis toujours, enfin révélé.
21h minuit, Bob vous dit toute la vérité.
Auteur, conférencier et thérapeute, Serge Nazar est avec moi ce soir pour évoquer les différentes races d'extraterrestres, finalement, qui peuplent cette confédération intergalactique. La question que je vous ai posée juste avant, que l'on remplisse le livret A, c'est les gouvernements d'aujourd'hui sont-ils au courant de cette confédération intergalactique? La connaissent-ils, Serge?
Alors, l'histoire du monde extraterrestre est un secret de Polichinelle. Et il est évident que les gouvernements ont beaucoup d'informations, d'éléments, ils ont des dossiers énormes. Il suffit actuellement de rentrer sur Internet pour voir des dizaines de sites avec des photos, avec des films, avec des reportages, etc. Bon, il est bien évident que les gouvernements sont au courant, parfaitement au courant de tout ce qui se passe. Imaginez-vous que dès 1952, un être qui s'appelle George Adamski a été contacté par un Vénusien, lui aussi, avec plusieurs témoins. Il a pris de nombreuses photos de l'espace avec des vaisseaux. Il était très connu aux États-Unis, il a beaucoup enseigné, il a écrit des livres. C'était quelqu'un qui a été très médiatisé. Bon, il faut dire que c'est lui qui avait été chargé par la Confédération d'ouvrir les portes de la conscience cosmique dès cette époque. Ouais. Il y a eu Howard Menger qui a aidé des êtres qui venaient en mission, en déplacement pour quelques jours sur la Terre dans la dimension 3, dans la matière. Il les a aidés à s'intégrer, etc. Bon, il a écrit un livre qui est très beau. Il y a eu Eugenio Siragusa qui, pendant un temps, a beaucoup diffusé d'informations puisqu'il avait créé un mouvement qui s'appelait Centre d'études de fraternité cosmique et il envoyait des messages à différents gouvernements et au pape de l'époque. Et puis surtout, il y a eu Edouard Meyer qui est toujours en vie, qui habite en Suisse et qui a pris des centaines de photos de vaisseaux en dimension 3 et des kilomètres de films en Super 8 où on les voit évoluer dans la basse atmosphère.
Mais alors pourquoi, Serge, aujourd'hui, encore une fois, les instances gouvernementales nous disent ça n'existe pas, on n'y croit pas, on prend les ufologues pour des fous, on les raille, on se moque d'eux. Pourquoi, alors qu'on a tant de preuves, semble-t-il, l'information n'est pas dévoilée au grand jour?
Alors, imaginez un instant, place de la Concorde à Paris, une navette spatiale atterrit, des êtres descendent et disent « Nous voulons parler au président de votre République. Mm. » Et leur disent « Nous sommes une situation avancée, nous avons des moyens technologiques et des moyens d'évolution que vous ne pouvez même pas soupçonner, et nous allons vous aider à mettre de l'ordre dans votre civilisation. Il faut tout remettre en question. » La technologie, l'écologie, l'histoire, les religions, imaginez la panique.
Alors ça veut dire quoi ? C'est que ça veut dire qu'il y a un droit d'ingérence, ils n'ont pas le droit, ils n'usent pas de... voilà, c'est quoi ? C'est le fait de se dire qu'on ne va pas déboussoler une planète, c'est ça ce qu'ils ont en fait en tête ?
Oui, dans leur charte, il y a la non-ingérence dans les affaires intérieures d'une planète, et il y a le respect du libre arbitre, et il y a la notion de guidance. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que leur rôle, c'est d'aider les êtres à évoluer et non pas de les bloquer. Actuellement, d'ailleurs, c'est la question que je pose parfois aux gens qui m'entourent, quand ils me disent, mais ils peuvent venir sans problème. D'accord. Dans votre entourage, combien connaissez-vous de personnes entre votre famille, les amis, votre endroit, bon, 50, 100 personnes, 200 personnes. Quelles sont les personnes à qui vous pourriez parler de ces êtres-là ? 1, 2, 3. Bon, quelle est la proportion actuellement dans notre civilisation dite technologique, donc évoluée sur un certain plan psychique et mental, quelle est la proportion d'êtres qui accepteraient de se trouver devant un être qui va tout leur remettre en question ? Alors, les sondages ont montré que à peu près même plus de 50% des gens croient aux extraterrestres. C'est bien, et ça fait partie justement du système d'évolution. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de vaisseaux qui se montrent, qui ne sont pas forcément de la Confédération, mais peu importe. Mais il y a une différence, me semble-t-il, entre penser mentalement que ça existe et se retrouver devant un être qui, justement, va remettre en question beaucoup trop de choses, et surtout, les responsables politiques risquent de se sentir dévalorisés, mis à l'écart de leur pouvoir temporel.
Il y a... Oui, mais en même temps, il y a un truc qui est fantastique, c'est que moi, je pense à la divulgation à grande échelle. Je me dis que finalement, peut-être que ça remettrait en cause tout notre système de vie, notre quête à l'argent. On pourrait avoir on se recentrer sur l'essentiel. Et vous voyez, il y a le partage. Enfin, je sais pas, je suis peut-être dans l'utopie quand je dis ça, mais peut-être que cette divulgation nous permettrait de nous dire, attendez, mais finalement, on n'est pas grand-chose. Il y a d'autres choses ailleurs, il y a des choses beaucoup plus importantes. Arrêtons de courir après n'importe quoi. On peut éventuellement évoluer. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais bien sûr, je dirais que dans un certain sens, vous avez entièrement raison. Mais bon, il y a tellement de moyens de constater quand on veut s'intéresser de la réalité de ce qui se passe. Bien sûr, toute personne qui désire s'intéresser à l'espace, à l'évolution, au monde extraterrestre, etc., etc., à tous les moyens, en lecture, en film, en vidéo, Internet y contribue pour beaucoup. Il y a des films initiatiques qui sortent, où des gens se sentent inspirés. Ouais. Donc, cela avance rapidement, on peut dire, au niveau des proportions. Maintenant, on est capable d'exprimer des choses qu'on n'était pas capable de faire il y a 20 ans. Donc tout cela évolue, et d'autant plus qu'il y a un autre phénomène qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui, c'est l'augmentation de la vibration de la planète Terre, enfin de Gaïa, de la conscience planétaire dont le corps s'appelle la Terre. Donc la vibration monte, et ça, beaucoup de gens autour de moi l'ont bien senti et savent ce qui se passe. Donc, je dirais, la prise de conscience se fait rapidement, tangiblement, mais je crois qu'on n'a pas encore atteint un certain potentiel pour qu'il puisse atterrir sans que ça provoque trop de perturbations. Ils vont atterrir, c'est prévu, mais ils le font quand... les gens seront suffisamment prêts à se remettre en question, plus ceux qui sont éveillés, pour que ça ne provoque pas des bouleversements. Leur rôle, ce n'est pas de créer des blocages par rapport à ceux qui ne sont pas prêts. mais c'est d'aider ceux qui sont prêts. Et chaque être incarné qui évolue, qui comprend certaines choses, va aider l'entourage, ouais. Ne serait-ce que par la vibration. Il ne s'agit pas toujours de parler, mais ne serait-ce que par le comportement, par l'état d'être, va être un exemple qui va rejaillir sur autrui.
Alors Serge, il y a quelque chose qui intéresse énormément, c'est quand on parle des êtres venus d'ailleurs, c'est les Pléiadiens, les reptiliens, et on dit qu'entre eux, il y a plutôt une certaine animosité. Est-ce qu'il y a des conflits en dehors de notre petite Terre?
Alors, il faut bien, comme j'ai déjà dit, faire la différence entre ces êtres que j'estime être très évolués, qui s'appellent la Confédération, avec le monde extraterrestre qui représente des planètes qui sont en train d'évoluer, d'accord, comme nous. Alors certaines sont...
Et qui sont dans le matériel, c'est ça?
Matériel ou bien subtil.
D'accord, ah aussi quand même.
Ben oui, ce n'est pas parce que on est dans le monde subtil qu'on est forcément très évolué, mais... Je dirais que quand on regarde la vie au niveau du cosmos, peu importe que l'on vive sur tel ou tel plan, peu importe que l'on vienne de Aldébaran ou de Sirius, c'est l'état des consciences qui sont en train de s'éveiller et de faire leur travail d'expansion.
D'accord.
Donc, parmi toutes ces planètes qui sont en train d'évoluer, et dont certaines... je dirais, peut-être ont acquis un certain processus de paix, mais qui n'ont pas du tout d'évolution spirituelle, par exemple, ou de connaissance du cosmos. Il y a des civilisations qui vivent très bien, il n'y a pas ni la faim, ni la violence, mais bon, ils sont là, et puis ils vivent comme ça, et ils ne savent pas ce qu'ils sont. Donc, ils vont apprendre, eux, à avoir, être ce qu'on appelle soi conscient, soi SOI. Bon, il y en a d'autres qui sont tout amour, j'en ai rencontré, ce sont des petits êtres absolument merveilleux, mais ils sont fragiles, ils sont sensibles, ils peuvent diffuser tout l'amour qu'ils veulent dans leur plan, sur leur planète, mais mettez-les sur une planète différente et ils vont être complètement désorganisés. Ce qui fait qu'il y a des êtres qui sont beaucoup plus évolués que la moyenne des gens sur Terre, qui viennent faire des cycles d'incarnation sur Terre pour apprendre ce qu'ils n'ont pas, pour être en complément.
Ouais.
Bon. Donc parmi ces civilisations qui sont en train d'évolution et qui ne sont pas perfectibles, ils sont perfectibles, ils ne sont pas parfaits, mais qui peuvent commettre des erreurs, étant donné qu'il y a beaucoup de consciences qui encore sur la Terre ne sont pas claires, il y a attraction vibratoire entre ce qui se passe sur la Terre et d'autres civilisations. Bon. Et à partir de là, il y a, des interférences qui se font par rapport au système d'évolution normal. C'est un problème. C'est l'affaire de la Confédération. Nous n'avons jamais discuté ni des reptiliens, ni des petits gris, ni de ceci, ni de cela, parce que dans ce que j'avais à faire, ça ne me concernait pas. Il y en a d'autres dont le rôle est de s'intéresser à ces sujets, mais ça n'a pas été le mien.
Alors, vous, est-ce que vous les voyez, les vaisseaux, par exemple? Vous disiez qu'il y a des gros porteurs qui croisent dans l'univers. Est-ce qu'il vous arrive de les voir physiquement?
Il m'est arrivé plusieurs fois de voir des vaisseaux de la Confédération qui étaient sur un plan donc légèrement décalé par rapport à la matière et qu'on pouvait apercevoir. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Nous étions donc mon épouse Oriane et moi-même, qui n'est pas la mère de mes enfants, bon, bref. Nous nous promenions du côté du lac de Serponçon. Il y avait du monde, etc. Et tout d'un coup, le ciel était absolument dégagé de tout nuage. Il y avait un bon mistral qui faisait qu'il y avait un ciel bleu magnifique. Et tout d'un coup, je vois apparaître, en une seconde, même pas, un nuage lenticulaire, qui n'était pas très gros, à vue d'œil. Et j'ai senti une vibration caractéristique que je connais. Je me suis dit, tiens, regarde, Oriane, il y a un vaisseau qui est là, mais on ne perçoit physiquement avec nos yeux qu'un nuage lenticulaire. Ouais. Tout d'un coup, le vaisseau, enfin, le nuage disparaît, clac, en une demi-seconde. Et il apparaît un peu plus loin. Et puis il disparaît. Et puis, on a assisté à un balai d'un nuage lenticulaire qui vadrouillait dans le ciel. Et ma réflexion à l'époque, c'était, regarde, les êtres humains ne voient même pas ce qui se passe dans leur atmosphère basse. Mm-hmm. Ils sont pris dans leur bulle de conscience avec leurs problèmes, etc. Et ils ne s'aperçoivent même pas ce qui est devant leurs yeux. Mais j'étais curieux de savoir à quoi correspondait ce phénomène. Bon, il est bien évident que sur le plan de l'atmosphère, il y a des nuages lenticulaires qui existent et qui sont des nuages tout à fait normaux de notre atmosphère, mais généralement ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus hauts que ça. Mmh. Lorsque nous sommes rentrés dans l'endroit où nous étions, je ne sais plus si c'est un être qui a contacté mon épouse ou c'est nous qui avons posé la question. Mmh. Toujours est-il que à travers son canal, j'ai entendu « Bonjour mes amis, je suis le pilote du vaisseau qui vous a fait coucou tout à l'heure. » Et alors je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Alors il m'a dit « Je suis en train d'opérer des stabilisations parce que quand les hommes ont créé la station de ski des Ors, ils ne connaissent pas les lois de l'équilibre de la matière et ils ont créé une déstabilisation par rapport à la roche, l'équilibre des roches. Et régulièrement nous venons pour compenser ce problème créé par les hommes. Mais pour cela, nous devons travailler sur une fréquence proche de la matière. Oui. Et lorsque nous sommes immobiles, l'ionisation du vaisseau crée des molécules de vapeur d'eau autour du vaisseau, de la forme du vaisseau, puisque c'est lié à son ionisation. Mm. Mais
pourquoi s'intéresse-t-il, par exemple, à cette station de ski? Parce qu'on a créé un désordre. Mais pourquoi cette terre qui est la nôtre les intéresse-t-il tant, finalement?
C'est pas que ça les intéresse. Et ça les intéresse sur le plan de l'aide psychologique, de l'aide d'évolution. Ouais. Mais dans leur rôle, il y a aussi d'opérer, comme je dis tout à l'heure, des stabilisations, des rééquilibrages. Et imaginez-vous qu'il y a des centaines de vaisseaux qui travaillent dans les endroits stratégiques. On pourrait dire, par exemple, au niveau des armements nucléaires des différentes armées, au niveau des centrales nucléaires, parce que l'homme casse les noyaux atomiques, ce qui est contraire aux lois d'équilibre universel, vont opérer des stabilisations psychologiques dans les endroits où il y a des menaces de guerre qui peuvent entraver l'évolution normale de la planète Terre. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un être fait une bêtise, si ça implique quelques personnes ou quelques dizaines ou centaines de personnes, il n'y a pas de problème. Les êtres vivent les conséquences de leurs actions. Mais lorsque ça, une action implique un équilibre d'évolution de la planète, et ils interviennent pour stabiliser, régulariser, harmoniser. Il n'est pas question qu'ils interviennent directement, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit d'ingérer, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'évolution d'une planète, mais ils vont faire le maximum, comme une mère de famille va faire avec son enfant lorsque celui-ci, dans son apprentissage, risque de faire des erreurs et casser quelque chose ou même se blesser. C'est la même relation. Ils se nomment nos frères de l'espace, c'est-à-dire ils disent... Nous avons juste un petit moment d'avance sur vous dans l'évolution. Eh bien, notre avance, nous les mettons à votre disposition pour vous aider, mais éviter aussi que vos erreurs aillent trop loin et empêchent l'évolution normale de votre planète. Par exemple, à chaque fois que l'on envoie une fusée dans l'espace, ça crée des déchirures dans un certain filet protecteur de la planète. eh bien, les frères, avec leur vaisseau, vont rétablir les équilibres pour que ce vaisseau protecteur, ce filet protecteur, puisse continuer à être efficace. Bon, voilà.
Alors, justement, quel regard ont-ils sur la sonde Curiosity, par exemple, sur les hommes qui sont allés sur la Lune? Est-ce qu'ils nous regardent amusés ou est-ce qu'ils suivent notre évolution et notre conquête spatiale?
Ben, ils la suivent comme l'histoire naturelle de toute civilisation qui cherche ses origines et qui a envie de partir à la découverte du cosmos environnant. Ce n'est pas extraordinaire, c'est, je dirais, dans la nature des choses. Donc, ils le font. Mais si on va trop loin, à partir de là, ils peuvent intervenir pour bloquer un système, pour ne pas mettre en danger une grosse proportion de la population humaine.
Alors Serge, vous restez avec nous. Il nous reste 25 minutes pour continuer sur ce dossier de la Confédération Intergalactique. C'est passionnant ce qui se dit ce soir. Alors là, vous êtes conquis, ça me fait plaisir. Alors même s'il y a quelques personnes qui sont un peu sceptiques, quoi qu'il en soit, dans la majorité, vous faites l'unanimité. Serge Nazar, avec nous dans un instant pour continuer sur ce dossier. Je vous demanderai si vous avez assisté à des colloques également, si vous avez été convié. Qui dirigeait ces colloques? Qu'est-ce qu'ils s'y disaient? Vous restez donc avec nous, mon nom est Bob, et jusqu'à minuit, je vous dis toute la vérité.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les secrets d'État, les ovnis, les envoûtements, la réincarnation.
Bob vous dit toute la vérité sur Radio. Du lundi au vendredi, 21h minuit.
Si vous avez voulu toujours tout savoir sur les secrets d'État, les sociétés secrètes, les ovnis, eh bien vous avez fait le bon choix tous les soirs sur Radio. Mon nom est Bob et je vous dis toute la vérité. Et je rappelle que début avril, je vous proposerai plein de choses parce qu'on a parlé de la révélation des pyramides, mais ça va être un très joli mois puisque le 11, j'aurai Jean Didier ici.
Oui.
Pour vous proposer une séance de spiritisme en direct avec le son et l'image, car je vous rappelle que si vous allez sur adofm.fr, vous cliquez, vous avez le studio, hein, vous pouvez voir Mathieu. Moi je me cache,
caméra de surveillance.
Mais Mathieu, pas de problème.
Malgré toutes les mises en garde, malgré les avertissements,
tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité.
La Confédération Intergalactique. Voilà un sujet qui nous passionne ici dans Bob vous dit toute la vérité. Et je sais que vous êtes également passionné. Serge Nazar est avec moi, auteur, conférencier, thérapeute. On reviendra sur les bouquins que vous avez écrits, certains de vos bouquins. Serge, apparemment, votre maison d'édition, vous ne faites pas assez de pub. Alors on en fera un petit peu pour vous. Quoi qu'il en soit, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous avez assisté à des colloques? Par qui avez-vous été convié, pardon? Et comment ça s'est passé?
Alors, non, je n'ai pas assisté à des colloques. Et comme je ne me faisais pas forcément connaître dans les grands médias, j'étais pas invité. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque j'ai rencontré des ufologues qui faisaient un bon travail au niveau des recherches ufologiques, ces êtres-là n'admettaient pas que j'avais été contacté physiquement et que j'étais en contact de différentes manières avec la Confédération. Dans les milieux spirituels où je suis allé, il y avait aussi les égos qui s'exprimaient, les luttes d'influence, les jalousies. Bon, tout cela ne m'intéressait pas. J'avais autre chose à faire.
Alors justement, est-ce que vous avez été invité à des colloques, mais de la Confédération Intergalactique?
La Confédération Intergalactique ne fait pas des colloques au niveau de la matière.
Oui, non, mais spirituellement.
Il y a des réunions qui se font sur certains, bon, soit dans des vaisseaux, soit sur certains lieux, comme par exemple la base du Mont Ventoux. Ouais. Ces êtres-là travaillent, mais je n'ai pas été invité à leur colloque parce que c'était pas ni mon rôle et ça rentrait pas dans ma action. Je vais vous raconter une aventure justement au sujet du Mont Ventoux. Un jour, je vais au Mont Ventoux pour y faire un travail qui m'avait été demandé justement par mes amis. Donc j'y vais et en montant, je perçois sur la gauche un petit chemin qui s'enfonçait. Bref, je vais faire mon travail au sommet du Mont Ventoux. Et en redescendant, je perçois aussi donc sur ma droite ce petit chemin, mais sans plus, qui ressemble à tous les autres chemins. J'arrive à la maison, le soir je me couche, je m'endors, et tout d'un coup je me réveille et je me vois me transporter, non pas matériellement parce que mon corps est resté dans mon lit, mais en expansion de conscience, en dédoublement si vous voulez, je me vois me retrouver, là c'est sans voiture, sans rien, directement devant ce chemin-là. En pleine nuit, mais je voyais les étoiles, je voyais le chemin, comme si j'étais vraiment matériellement dans cet endroit-là.
Donc c'est quoi, c'est une sortie de corps, ça ?
Oui, c'est un, c'est ça. C'est un déplacement de la conscience,
d'accord,
tout simplement.
Bon. Okay.
Je m'avance sur ce chemin et je vois un être habillé en combinaison qui paraissait blanche dans la nuit. Il me fait le signe de la Confédération et me dit « Halte là, mon ami, on ne dérange pas les frères qui travaillent. »
C'est quoi le signe de la Confédération ?
Alors, ce signe-là m'a été fait donc il y a très longtemps, et puis j'ai eu différentes confirmations.
Ouais.
La main gauche est sur le cœur, et la main droite, avec le bras légèrement replié, et paume écartée, perpendiculaire au corps. Le principe, c'est « je te donne mon cœur ».
D'accord.
Voilà. C'est le signe de ralliement de la Confédération. Bien. Donc, il me dit « vous ne pouvez pas, il n'y a pas de tutoiement ou vouvoiement, puisque c'est par transmission de pensée. Hein. » Bon, enfin, bref. Disons, tu n'as pas le droit, l'autorisation d'aller plus loin. Et moi, je voulais aller plus loin parce que j'étais curieux. Mais qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que tu peux répondre à mes questions ? Il m'a dit, bien sûr, je vais répondre à tes questions.
Mmh.
Ici, il y a un lieu cosmotélique très important qui a telle fonction. Nous avons établi une base à cet endroit-là où se réunissent des êtres de la Confédération ou des êtres qui viennent de différentes planètes pour coordonner leurs mouvements, échanger des informations, etc. Mais ton rôle n'est pas d'intervenir ici. Bon, donc j'ai vu que je ne pouvais pas insister, mais comme mon caractère, je suis un peu volontaire aussi. Régulièrement, je leur demandais pourquoi est-ce que je ne peux pas visiter cette base. Donc un jour, sans doute pour avoir la paix, ils m'ont fait visiter la base au-dessus, on pourrait dire en voyage, au-dessus de la base, mais sans plus.
Ouais.
Voilà. Il y a des réunions qui se font là. Ouais. Ils m'ont expliqué beaucoup de choses sur cet endroit, les couloirs d'entrée des vaisseaux, comment ça, etc.
Alors justement, je vous coupe deux secondes, Serge, parce que puisqu'on parle des endroits justement des bases des vaisseaux, est-ce que les pyramides, par exemple, dont on a beaucoup parlé, est-ce qu'on peut imaginer que ce sont des bases de pour cette confédération intergalactique ?
Alors puisque vous parlez des pyramides, je peux vous en dire deux mots. J'ai même écrit un ouvrage là-dessus. La grande pyramide, qui n'a rien à voir avec Khéops, a été fabriquée il y a 12 000 ans, c'est-à-dire à la fin de l'Atlantide, pour permettre aux énergies cosmiques d'aider les êtres incarnés à passer de la civilisation Atlante à la civilisation actuelle, et d'autant plus que la civilisation Atlante était gérée par des êtres évolués de la planète Mars, donc plan subtil, alors que la civilisation actuelle devait être gérée par des êtres évolués d'une planète qui tourne autour de Sirius. Donc, ils ont construit cette pyramide en un lieu particulier, avec une forme particulière, avec des éléments absolument fantastiques en mathématiques, en physique, en géométrie, etc. Maintenant, c'est bien connu. Et ils ont installé en haut de la pyramide, sur un petit plateau, parce qu'elle n'est pas parfaitement pointue, il y a un espace plat, ils ont mis à cet endroit-là une pointe, donc pour terminer cette pyramide, avec un matériau...
C'est le pyramidion, hein, c'est tout ce qui est en haut. Hein, tout ce
voilà,
que...
voilà, voilà. Le mot, c'est le pyramidion,
ouais.
Qui servait aux énergies de pouvoir passer d'une civilisation à l'autre. Donc, il y avait différentes fonctions. En plus, dans la chambre du roi, qui n'a jamais été un tombeau, était un endroit particulier, je crois que ça correspond au centre de gravité. Et c'était pour plus tard, des êtres initiés venaient s'allonger là et passer d'une dimension à l'autre, pouvaient voyager dans l'espace, et un certain nombre d'êtres ont travaillé, se sont déplacés. Moïse y est allé plusieurs fois, Jésus de Nazareth a organisé une réunion lors de son passage sur Terre avec des grands maîtres spirituels de la planète pour justement préparer le futur ère du Verseau déjà. Oui. Donc cette pyramide a eu des fonctions extrêmement importantes.
Et on peut imaginer que vu qu'il y a des pyramides dans le monde entier, finalement, si elles ont été mises ici ou là sur la planète, c'est parce que c'est pour aider toutes les civilisations justement à passer à aider les différents initiés,
non. Seule la Grande Pyramide a eu cette fonction, et d'ailleurs maintenant, elle n'a plus la vibration nécessaire. Le pyramidion s'est désintégré naturellement lorsque sa fonction n'avait plus de sens. Mmh. Mais les différentes pyramides que l'on constate un peu partout sur la planète, eh bien, proviennent de l'Atlantide, où les Atlantes construisaient des pyramides qui avaient différentes fonctions, qui étaient très très certaines, de très avancées au niveau de la technologie. Et lorsque l'Atlantide a disparu, avant qu'elle ne disparaisse, différentes colonnes ont émigré dans différents endroits de la Terre, et au fil du temps, ils ont essayé de reconstruire de ce qu'ils avaient ou que leurs ancêtres avaient déjà vécu. Voilà, et ils en ont fait des lieux soit astronomiques, soit des lieux religieux, des lieux de croyance, etc. Mais la fonction de pyramide existait déjà comme quelque chose de normal en Atlantide, et c'est pour ça qu'on le trouve un peu partout, parce que ces émigrations sont allées dans différents lieux de la Terre, même avant que l'Atlantide ne disparaisse d'ailleurs, puisque l'Atlantide avait les aides de l'Atlantide avaient des comptoirs un peu partout, notamment en Égypte, bien sûr.
D'accord. Et, voilà. Alors dites-moi, je crois que vous avez également, vous personnellement, vécu un voyage dans une alvéole espace-temps.
Oui. Alors ça a été encore quelque chose d'assez surprenant. Voici ce qui s'est passé. J'habitais Montélimar et je travaillais sur un chantier à quelques dizaines de kilomètres. Ouais. Et donc tous les matins, j'allais sur mon chantier avec ma de Deuche, et puis je devais passer un grand carrefour. Et voici que ce jour-là, au moment où je m'engageais, parce que c'était le feu vert, je vois une camionnette blanche qui arrive sur la gauche et qui brûle le feu. Donc je donne un grand coup de volant sur la droite, lui me voit d'ailleurs et fait pareil, et les deux véhicules ont eu un choc sur l'avant. Ouais. Bon. Au moment du choc, je me retrouve au-dessus de la Seine. Ouais. La Deuche avait disparu, et je voyais le conducteur de la camionnette qui se grattait la tête parce qu'il y avait des débris de verre, et puis il n'y avait plus rien.
Ah, lui non plus ne voyait plus la Deuche.
Non. Oh, attendez, je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai perçu et de ce que j'ai vu.
Oui, bien sûr.
C'est pareil, à ce moment-là, je n'étais pas en état de me poser la moindre question sur quoi que ce soit, parce que ça a été très vite. Mm-hmm. Et je me suis retrouvé dans l'instant après, dans ma deux chevaux, mais dans un espace qui m'a vraiment impressionné. Il y avait comme un brouillard, et il y avait surtout une sensation désagréable, étrange, mais vraiment que je n'avais jamais connue. J'ai pratiquement jamais eu peur de ma vie, je crois, sauf ce jour-là. Parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, mais c'était presque de la terreur.
Ouais.
Alors je me dis, il faut que j'aille voir ce qui se passe. J'ouvre la portière et je sens qu'il n'y avait pas de sol.
Ah.
J'ai refermé la portière, et là, c'est là où j'ai eu peur. J'ai dit, bon, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai appelé mes frères. Au secours, mes frères, je ne comprends pas ce qui se passe. Veuillez vous occuper de moi. Et à partir de là, je me suis retrouvé dans ma deux chevaux, devant le portail du chantier. Et là aussi, j'avais fait les quelques 9 ou 10 kilomètres sans m'apercevoir de... que je conduisais.
Comme si vous aviez été téléporté, quoi, finalement.
Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, Bon, bien sûr, je n'ai pas compris sur le moment. Ouais. J'ai demandé des explications comme je fais toujours. Si j'ai appris beaucoup de choses, c'est que j'ai posé des centaines et des centaines de questions.
Ouais.
Et souvent, je les embêtais parce que la réponse ne me convenait pas, je ne la comprenais pas. Et je revenais avec un autre être en disant, dis donc, un tel m'a expliqué ça, mais je ne comprends pas, est-ce que tu peux me le dire à ta manière, etc.
Ouais.
Alors, l'explication était la suivante. Nous t'avons fait vivre ce phénomène pour te montrer ce qu'est une porte espace-temps et ce que l'on peut ressentir lorsqu'on se retrouve dans ces alvéoles espace-temps qui ne sont pas des lieux ouverts vers l'univers, qui sont comme des boursouflures au niveau de l'espace-temps de la planète Terre.
Ouais.
Il y en a un peu partout sur la planète. Et si un être arrive au niveau d'une porte qui s'ouvre, il peut être très dérangé psychiquement. Mais par contre, au niveau du triangle des Bermudes, le phénomène est beaucoup plus complexe. Et il nous a expliqué ce qui s'est passé. Il a dit, à l'époque des Atlantes, ils avaient atteint une technologie pour permettre de modifier le climat, parce qu'on était, je crois, à la fin de la glaciation de Schultz, enfin, un mot comme ça.
Mm-hmm.
Et pour garder un climat tropical ou tempéré, ils avaient utilisé des activateurs nucléaires pour transformer le climat. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, là aussi, ils ont violé une loi d'équilibre de la Terre.
Ouais.
Les pôles magnétiques ont été déplacés,
ouais,
puisque ces pôles magnétiques sont retrouvés entre ce fameux triangle des Bermudes et le triangle du diable qui est l'opposé au niveau, mm-hmm, de la planète.
Mm-hmm.
Lorsque l'Atlantide a disparu, les pôles magnétiques se sont remis à peu près à la place qu'ils occupent actuellement, donc près du pôle géographique.
Ouais.
Et ça a créé artificiellement une immense porte espace-temps. Et cette porte espace-temps, qui est un phénomène, je dirais, naturel de la Terre, lorsqu'elle s'ouvre, elle ne reste pas longtemps ouverte. C'est une rémanence d'un problème qui a été créé par les hommes.
Mais alors, si jamais quelqu'un emprunte...
Alors, justement, ouais, j'en viens. Si un être ou un véhicule se trouve là, à l'intérieur de cet immense espace-temps, de cette porte, et si elle s'ouvre, il se retrouve dans une alvéole espace-temps.
Wow.
Qui est d'ailleurs beaucoup plus importante. Et le même phénomène se trouve à l'opposé, dans ce qu'on appelle le triangle du diable, mais il est moins connu parce qu'il y a moins de circulation de bateaux ou d'avions à cet endroit-là.
D'accord.
Voilà.
Est-ce qu'on peut imaginer que tous les navires qui ont disparu au triangle des Bermudes ont emprunté cette porte et se retrouvent aujourd'hui quelque part coincés ?
Alors, bien sûr, s'ils ont disparu, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose.
Bon.
Je pourrais dire que les véhicules sont toujours coincés dans cet espace-temps, et ce sont des véhicules, il n'y a aucune importance, mais par contre, la Confédération intervient pour récupérer les êtres humains qui sont fortement traumatisés, parce que je vous dire, le jour où j'ai vécu ça en tout petit, j'ai eu une sacrée frayeur déjà.
Mmh.
Bon, ces êtres-là sont récupérés au niveau de vaisseaux, ils sont soignés psychologiquement, ils sont enseignés, et on leur propose soit de les réintégrer sur la Terre, mais pas dans leur milieu habituel,
ouais,
ou bien d'aller sur telle ou telle planète, etc. Et ils m'ont dit que pratiquement tout le monde préfère aller vivre sur des planètes plus évoluées, calmes, sereines, en paix, etc.
Mmh.
Voilà.
Assez incroyable quand même cette expérience. Alors avant de partir, parce qu'on va être obligé malheureusement de se quitter, alors ça va vous permettre de réfléchir à un troisième passage chez nous, parce que je sais que vous avez tant de choses à dire. On n'a pas évoqué votre contact à Karnak également, l'autre civilisation vivant sur un autre plan que vous avez rencontré avec votre épouse. On aura donc peut-être l'occasion de se revoir. Avant de vous quitter, vous avez écrit deux romans initiatiques qui sont publiés chez Eddy Livre, c'est ça?
Voilà, alors il y a un certain nombre d'années, je crois que c'était en 1995, j'avais écrit un livre où j'avais diffusé un certain nombre de messages, tels que la partie que je vous ai lue tout à l'heure,
ouais,
et ce livre avait été édité par les éditions Arista,
ouais,
qui était géré par les Maurois Juvaudan. à l'époque. Bon. Entre-temps, tous les livres que j'ai écrits, il y a une partie qui est purement spirituelle et qui est donc la reproduction de ce que j'ai appris par la Confédération. Ces livres-là, je les ai distribués en auto-édition, c'est-à-dire sous forme de photocopies reliées, parce que aucune maison d'édition n'a voulu méditer sur tous ces livres-là.
Ouais.
Bon, parce qu'une maison d'édition est faite pour gagner de l'argent, c'est normal, et ces livres-là intéressaient à l'époque peu de gens. Bon, donc, j'ai distribué pas mal de livres en auto-édition,
ouais.
Mais j'ai écrit trois romans initiatiques,
ouais.
Où j'ai mis à travers des héros une partie de ce que j'avais vécu, ouais. Et j'y ai inclus un certain nombre de notions sur le cosmos, sur Vénus, sur différentes choses,
mmh.
Et j'ai appelé ça des romans. Les éditions Edilivres ont, ont accepté de m'éditer, donc ces deux romans, tout le monde peut les lire, il suffit de taper edilivres.com,
ouais.
Et dans la recherche, de taper mon nom, c'est-à-dire Serge Rêveur Nazar. Et à ce moment-là, toute personne peut commander ces livres-là et les recevoir. Parce qu'il se trouve que cette maison d'édition, qui est plus informatique, mais on peut acheter les livres, donc les livres sont de livres, hein, ne fait pas de publicité. N'alimente pas les librairies.
Ah bah, de toute façon, voilà, la publicité a été faite. En tout cas, on a parlé de ces bouquins et on mettra les liens, bien sûr, sur la page Bob vous dit toute la vérité sur le site adofm.fr. Serge Nazar, merci mille fois d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis à bientôt, j'espère.
Alors, bien sûr, merci. Ça a été toujours une joie pour moi de m'exprimer.
Oui.
Je voudrais simplement dire que nous n'avons abordé qu'une petite partie de cette confédération,
ouais.
Mais qu'il y a bien d'autres sujets passionnants que j'ai eu l'occasion de vivre et d'apprendre,
ouais.
Au-delà de ce créneau de la Confédération intergalactique qui est quand même, je dirais, ma famille cosmique.
Eh bien, on y reviendra. Merci infiniment. C'était Serge Nazar dans Bob vous dit toute la vérité.
On retrouve Bob sur Ado.
Et aussi sur le net. Sur le net.
En podcast totalement gratuit sur iTunes.
Et oui, l'avantage de iTunes, c'est que vous pouvez nous écouter quand le soir, vous êtes occupé, vous ne pouvez pas être avec nous. Vous pouvez donc réécouter les émissions quand bon vous semble, oui. Et puis c'est gratuit. Dans un instant, les miracles. Toutes les religions ont pu consigner des miracles faits par leurs prophètes, leurs représentants. Qu'en est-il véritablement? On va y revenir dans un instant avec Patrick Sbalchiro.
Ouais, je vais vous passer un morceau énorme qui a été la meilleure chanson R&B et jazz qui a obtenu deux Grammy Awards. C'est une reprise de Bill Withers, Bob, avec Just the Two of Us.
Oui,
de Will Smith sur Ado. Et dans Bob vous dit toute la vérité jusqu'à minuit sur Ado.
Retrouvez Bob sur les réseaux sociaux.
En podcast sur adofm.fr
et en best-of le dimanche sur Ado.
21h minuit.